Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce n'est pas faire injure à Angela Merkel que de pointer son absence de charisme. Elle le sait, elle l'assume, c'est même devenu une force chez elle. Cette capacité à ressembler à Madame Tout-le-Monde qui semble rassurer les électeurs. La voilà bien partie pour entamer dans quelques jours, dans quelques semaines même, un quatrième mandat à la tête de l'Allemagne. Les élections fédérales allemandes ont lieu le 24 septembre prochain. L'ensemble des sièges du Bundestag est à renouveler. Tout indique que la CDU sera en tête, qu'Angela Merkel restera au pouvoir. Une position de favorite intacte après le seul débat télé auquel elle a accepté de participer avant-hier face au social-démocrate Martin Schulz. Alors on ne donnait pourtant pas cher de son avenir comme chancelière en début d'année dernière. En décidant d'accueillir massivement des réfugiés, Angela Merkel avait réussi à se mettre à dos une partie de l'opinion allemande et quelques-uns de ses alliés européens. Et bien la voilà désormais considérée comme la dirigeante qui inspire le plus de confiance dans le monde d'après l'étude récente d'un think tank américain. Alors Merkel, valeur refuge? Eh bien, c'est autour de cette question, de cette notion que nous allons discuter ce soir en compagnie de Marion von Rentargem. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, grand reporter à Vanity Fair, après avoir longtemps travaillé au journal Le Monde, et vous venez de publier Merkel, l'OVNI politique aux éditions Les Arènes. Pour discuter avec vous, Jérôme Vaillant, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur émérite de civilisation allemande à l'Université de Lille, vous dirigez la revue Allemagne aujourd'hui. Vous contribuez aussi de temps en temps au site The Conversation. Vous avez notamment publié un article dernièrement, Angela Merkel, l'inébranlable. Et puis troisième invité, Marion Gaillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, maître de conférences à Sciences Po, spécialiste des relations franco-allemandes et de la construction européenne. Alors je disais en ouverture de cette émission que Angela Merkel et la CDU étaient données favorites. Est-ce que vous êtes d'accord déjà pour commencer cette discussion pour dire que en effet l'hypothèse la plus probable aujourd'hui c'est que Angela Merkel va faire un quatrième mandat à la tête de l'Allemagne, Mario van der Targem?
Oui, enfin on peut toujours imaginer un tsunami inattendu, mais enfin vraiment là il y a très peu de chances qu'elle n'enraye pas sur un quatrième mandat. Je ne vois pas vraiment quel genre de coup de théâtre il pourrait y avoir.
Coup de théâtre, c'est le terme qu'il faut retenir, Marion Gaillard, pour imaginer une autre issue que celle qu'on évoque.
Oui, c'est ça, coup de théâtre, parce que ça semble assez clair là, et on a pu avoir des doutes au moment de l'entrée en lice de Martin Schulz, qui a eu un rebond dans les sondages et qui a fait espérer au SPD pouvoir sortir de l'ombre, mais là c'est peu probable, donc je pense aussi que c'est comme ça que ça va se passer.
Jérôme Vaillant.
Oui, l'écart entre les deux partis qui s'affrontent le plus directement entre les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates est trop élevé pour qu'on puisse imaginer, surtout après le débat de dimanche, que le SPD refasse son handicap et rattrape de façon significative les chrétiens-démocrates. C'est pour ça que, même si la chancelière dit par prudence tactique que le jeu reste ouvert, je crois qu'en fait, les cartes sont plutôt déjà pliées.
Alors on va voir quel mérite il faut attribuer à Angela Merkel pour lui valoir cette position de favorite, mais est-ce qu'on peut aussi y voir peut-être une particularité de l'électorat allemand qui n'aimerait rien d'autre que, enfin en tout cas rien de tant qu'une forme de stabilité dans le temps, puisque si la longévité au pouvoir d'Angela Merkel surprend, il faut quand même aussi préciser que ce n'est pas quelque chose de totalement inédit. Helmut Kohl est resté 16 ans au pouvoir, Konrad Adenauer est resté 14 ans, si je calcule bien, 1949-1963, c'est pas quelque chose qui est en tout cas une anomalie dans l'histoire politique allemande récente, Jérôme Vaillant.
Mais en l'occurrence, il s'agit de femmes ou hommes politiques des chrétiens démocrates, ce qui joue peut-être aussi un rôle dans l'affaire, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu des chanceliers sociaux-démocrates, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, leur passage au pouvoir a été de beaucoup plus courte durée. Alors je crois que cela joue un rôle, le fait que le chancelier a une position forte qui normalement l'assure presque de sa réélection lorsqu'il n'y a pas de conflit particulier. Il n'en reste pas moins que l'électorat allemand, pour revenir sur ce que vous disiez il y a un instant, je vous donne globalement raison, l'électorat allemand est devenu aussi un peu comme partout en Europe, un électorat beaucoup plus fluide, comme on le dit, presque liquide, disent certains. Et on fait remarquer qu'il y a à peu près la moitié des électeurs qui sont encore indécis, même si personnellement je suis tenté de penser que parmi les 50% d'indécis, on retrouve à peu près les mêmes proportions, sans doute, que dans ceux qui ont déjà arrêté leur vote. Et puis ça, je ne pense pas qu'il y aura de surprise.
Et puis, Marion Gaillard, il faut aussi rappeler quand même ce qui est une particularité du système politique allemand, en tout cas depuis quelques années, ce sont les coalitions. Aujourd'hui, c'est une coalition entre les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates qui est au pouvoir. Et le principal adversaire étant un social-démocrate, on peut se dire que les électeurs allemands peuvent être tentés de ne pas choisir l'alternance, puisque l'alternance se trouve à l'intérieur même du gouvernement. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'un peu spécial. Donc pourquoi voter pour quelqu'un d'autre, dans la mesure où, a priori, ça va conduire à peu près la même politique?
Alors ça ne conduirait pas forcément à la même politique si on pouvait imaginer une alternance réelle, c'est-à-dire une alliance entre les sociaux-démocrates et les Verts, comme c'était le cas sous Schröder. Mais effectivement, la position de Martin Schulz, elle est très compliquée puisque c'est difficile de se démarquer vraiment dans un débat, et on l'a bien vu l'autre soir, dans la mesure où ils sont associés, le SPD, au bilan de Madame Merkel. Donc la marge est quand même compliquée. Donc effectivement, il y a cette spécificité allemande. On va voir ce qui se passe en France. On a une nouvelle forme de grande coalition en France. C'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un positionnement très difficile, je trouve, dans un débat. Comment se démarquer tout en assumant une partie du débat, tout en proposant autre chose que ce qui a été fait. Voilà. Donc ça me semble du coup favoriser la reconduction de Madame Merkel.
Et dans ce positionnement global, comment se positionne justement Angela Merkel, Marion Van Rettergem? Est-ce qu'elle se considère comme étant de droite, ce qui semblerait a priori logique puisqu'elle appartient à la CDU? Est-ce qu'elle se considère un petit peu de gauche, ni de l'un ni de l'autre, ou un petit peu des deux? Dans votre livre, il me semble qu'il y a une phrase en fin de chapitre dans laquelle vous écrivez, ou c'est peut-être quelqu'un qui le dit, qu'en tout cas elle aurait aussi bien pu appartenir au SPD. Finalement, ce sont un peu les circonstances de la vie qui ont fait qu'elle s'est retrouvée chez les chrétiens-démocrates.
Oui, je me souviens de cette phrase. C'est celui qui la prononce, c'est un de ses premiers mentors en politique qui appartenait à le parti Alternative für Deutschland. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est le parti d'extrême droite. J'ai oublié c'était le premier parti.
Démokratischer Aufbruch.
Voilà, exactement. Merci. C'est pas du tout l'AfD, au contraire. C'était donc ce premier parti dans lequel elle s'est inscrite et qui a conduit, qui a été absorbée par la CDU ensuite. Et il se trouve qu'elle a tâtonné à ses débuts en politique, au moment juste après la chute du mur, alors qu'elle n'avait absolument pas pensé à rentrer en politique. Elle a un peu hésité, elle a frappé à plusieurs portes, elle a essayé le SPD, qui lui rappelait un peu trop son pays, le pays l'Allemagne de l'Est où elle avait été élevée. Il y avait des slogans, une idéologie qui ne lui plaisait pas trop, et elle s'est retrouvée dans ce parti-là. Mais surtout, Angela Merkel est une grande artiste politique, c'est pas une grande stratège, c'est pas une visionnaire, mais c'est une grande artiste. Et à ce système allemand qui fait qu'elle a connu deux grandes coalitions, donc elle a, faisant de ses adversaires des partenaires de coalition, c'est-à-dire du Parti social-démocrate devient un partenaire au gouvernement, elle ajoute une énorme habileté à négocier, à mettre ensemble les contraires et à dissoudre ses adversaires, à réussir à éliminer ses ennemis en leur coupant la parole. Et vraiment, le SPD a énormément perdu en crédibilité au bout de ces deux coalitions, parce que chacune des réformes qu'ils pouvaient apporter, comme par exemple le salaire minimum, elle les a intégrées et finalement, ce sont des mesures qui sont mises à son compte.
Jérôme Vaillant, à son sujet, vous parlez de syncrétisme politique.
Oui, j'ai utilisé ce terme-là pour essayer de trouver une définition qui aille bien avec elle. Et d'un autre côté, j'ai utilisé le terme, elle est capable de siphonner les idées et également les électeurs des autres partis. C'est-à-dire qu'elle prend dans les partis ce qu'elle trouve être quelque part consensuel dans la société allemande, et de ce fait, elle coupe effectivement l'herbe sous le pied des autres partis. Les Verts s'en sont rendus compte après Fukushima. Les sociaux-démocrates en font l'expérience. Les libéraux en avaient fait aussi l'expérience, puisque je rappelle qu'elle n'a pas été seulement à la tête de grandes coalitions depuis qu'elle est au pouvoir. Elle a eu une petite coalition avec les libéraux, d'ailleurs qui n'a pas très très bien marché, parce qu'elle avait un parti libéral relativement faible, donc d'autant plus agressif. Et je crois qu'il ne ferait pas faire croire en France complètement que, même si la grande coalition semble plaire et convenir aux Allemands, elle convienne aux partis. Je dirais justement, Dimanche, on a eu l'impression d'un duo et non pas d'un duel. C'est ce que tout le monde à peu près a tiré comme conclusion du débat entre Merkel et Scholz. Le débat au Bundestag ce matin, que j'ai pu suivre à peu près un peu sur Internet, montre que la campagne électorale commence seulement maintenant. On s'est bien chamaillé, on s'est bien débattu, à ce point que une vice-présidente du Bundestag a dit « c'est très bien, continuez comme ça, c'est le fondement même de la démocratie de débattre entre nous ».
Et donc c'est peut-être là que vont apparaître des sujets un peu plus clivants.
Je crois
un peu
que maintenant on va davantage s'opposer et se chamailler.
Mais sur quoi est-ce qu'on peut s'opposer aujourd'hui en Allemagne, Marion Gaillard, à Angela Merkel?
Alors justement, je voulais rebondir parce qu'effectivement, elle a coupé l'herbe sous le pied du SPD sur le salaire minimum, mais aussi récemment, on l'a vu, sur le mariage homosexuel.
Grande habileté, j'en conviens, du grand art,
carrément.
Oui, c'est-à-dire elle fait savoir qu'elle est contre, tout en lançant le processus législatif, alors de manière extrêmement accélérée, c'est-à-dire en tout cas par rapport au débat qu'il y a pu avoir en France. Là, je crois qu'en quelques jours, c'est passé.
Elle vote contre, mais elle fait en sorte que ça passe, et du coup, le SPD n'a plus rien à dire.
Et du coup, parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles ils pouvaient s'opposer, et notamment les questions sociétales, et donc elle leur a clairement coupé l'herbe sous le pied sur un sujet où il pouvait y avoir cette opposition. Donc là, tant pis pour eux. Schulz a pas si mal réagi d'ailleurs en prenant la balle au bon, mais clairement, c'était elle qui était à l'initiative.
Elle lui a piqué son jouet.
Elle lui a complètement piqué son jouet et c'est tant mieux, j'allais dire, pour les avancées de société en Europe.
Mais il pourrait y avoir le terrain social, c'est-à-dire quand on parle de l'Allemagne, par exemple, on évoque très régulièrement la précarité d'un certain nombre de travailleurs avec ces fameux mini-jobs. Est-ce que ça n'est pas un élément, un argument qui peut peser dans le débat, ou bien est-ce que là aussi Angela Merkel réussit à prendre à son compte ce qui va bien et peut-être à se décharger de ce qui va mal, soit sur son opposition, soit sur ses prédécesseurs?
Alors là-dessus, c'est plus compliqué parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le SPD est beaucoup moins à gauche quand même que la gauche française, en tout cas ce qu'il en reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Et du coup, on a tendance ici à se dire, alors elle ne va pas forcément assez à gauche, mais finalement, le SPD n'a jamais été très socialiste, il est social-démocrate, comme on l'a dit. Et en plus, elle arrive à avoir une position aussi de plus en plus centrale, puisque la gauche reste à gauche, mais ne l'est pas autant qu'en France, et les Verts incarnent d'une certaine manière l'alternative à gauche. Et d'autre part, la CSU se radicalise de plus en plus vers la droite et le conservatisme économique et social, et même presque sur l'Europe, avec un discours beaucoup moins européen que ce qu'on a pu avoir par le passé. Donc elle occupe cette position centrale.
La CSU, c'est l'équivalent de
la branche bavaroise de la CDU. Et donc du coup, elle arrive à occuper cet espace central qui convient effectivement à peu près à tous les électeurs. Alors heureusement pas à tous, sinon on serait plus en démocratie, mais qui ratisse très large finalement.
Jean Bayon. Je crois qu'il faut ajouter quand même que la chancelière se présente aux élections dans une situation particulièrement favorable, puisque le chômage n'est pas inexistant, mais enfin il est quand même, selon les statistiques allemandes, inférieur à 6%, inférieur à 4% selon Eurostat. Il y a 750 000 emplois non pourvus actuellement, 44 millions d'emplois au total, dont 3 millions créés, et je crois que l'on voudrait un petit peu trop ternir cette image, au fond quand même, d'une success story sur le plan économique par la mise en évidence de la précarité, qui est un phénomène qui existe bien. Il y a bien un phénomène de précarisation. Selon les chiffres, on vous dira il y a 3 millions d'emplois précaires, d'autres vous diront il y en a 7 millions. C'est toujours de trop. Mais quelque part, ce que l'on peut dire, c'est que le slogan de Martin Schulz, plus d'équité sociale, dans le cadre d'une situation économique favorable et d'une situation sociale au total satisfaisante, ça ne prend pas. Donc c'est plutôt la satisfaction, malgré la précarisation, qui est évidente, et une augmentation de la pauvreté aussi.
Dans votre dernier article, d'ailleurs, Jérôme Vaillant, vous évoquez les affiches de la CDU qui mettent alors beaucoup en avant Angela Merkel, avec parmi les slogans qui parlent d'une Allemagne dans laquelle nous aimons vivre et dans laquelle nous vivons bien. Donc on voit que c'est à quel point effectivement ce bilan-là est mis en avant pour la reconduction de la chancelière. Dans votre livre, Marion Van Rettergen, toujours sur cette question finalement de la situation qui est celle de l'Allemagne aujourd'hui et donc aussi du bilan, puisque quand on se représente à une élection, en général, on commence d'abord par défendre son bilan. Vous atténuez quand même un petit peu ce qu'elle a pu faire en disant justement, ce n'est pas une grande visionnaire, elle n'est à l'origine d'aucune réforme structurelle d'envergure. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qu'elle a réussi à capitaliser, ça aussi, c'est-à-dire de n'avoir rien fait qui soit de nature à bouleverser la vie des Allemands?
Oui, c'est un des paradoxes d'Angela Merkel, c'est que au fond, elle n'a pas grand-chose à faire pour se maintenir au pouvoir. C'est l'Allemagne fait un peu le boulot à sa place. L'Allemagne est un pays, comme vous le disiez, qui se porte bien. Il y a 75% des Allemands qui se disent contents de leur sort et qui sont optimistes sur l'avenir. Alors on peut dire, je dirais comme monsieur, c'est que 25% qui ne sont pas contents, c'est beaucoup, mais enfin en même temps, c'est quand même assez peu quand on compare à l'élection française où près de 50% étaient totalement pour faire voter pour faire exploser le système. Donc elle surfe sur cette stabilité et sur un relatif bonheur allemand, encore une fois même, qui n'écarte pas la précarité et les zones d'ombre. Mais et elle n'a pas fait grand-chose. Elle a hérité des réformes de Gerhard Schröder qui ont complètement renversé la tendance économique de l'Allemagne. Le chômage a baissé de moitié sous Angela Merkel, mais il avait déjà commencé avant. Elle n'a pas fait grand-chose. Franchement, à part un sens de la famille, elle a modernisé le sens de la famille, la conception un peu traditionnaliste qui régnait à la CDU par le fait de ce qu'elle est elle-même, c'est-à-dire que c'est une femme, une protestante, une divorcée et qu'elle détonne par rapport aux critères d'habitude, mais elle n'a pas de réforme réellement à son crédit.
Il y a une formule française qui évoque la gestion en bon père de famille. Est-ce que s'agissant d'Angela Merkel, on pourrait parler d'une gestion du pays en bonne mère de famille?
Exactement, et moi je la compare même un peu brièvement et comme une boutade, mais je la compare à la reine d'Angleterre. Je pense que Angela Merkel est plus qu'elle ne fait. Elle incarne quelque chose, elle représente, elle est une sorte de symbole et de symptôme de son pays, plus qu'elle n'est active. Elle est d'une prudence inouïe, d'une grande patience, d'une grande lenteur en toute chose, qui énervait, qui horripilait Nicolas Sarkozy, parce qu'elle prend toujours le temps des décisions. Et au fond, les Allemands sont contents comme ils sont, et ce maître mot qui est la stabilité, elle l'incarne à merveille.
Marion Gaillard.
Oui, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, elle hérite des réformes de Schröder, et donc c'est le SPD qui a fait le sale boulot, c'est-à-dire qui a mené les réformes libérales qui ont conduit d'une part à la baisse du chômage sur laquelle elle capitalise aujourd'hui et en même temps à cette précarité, à cette précarisation, parce que ça a mis quand même un terme à l'économie sociale de marché des années 50-60 avec beaucoup beaucoup de travailleurs pauvres, des retraités qui sont obligés en fait de reprendre des petits jobs, et ça en même temps, eh bien Die Linke par exemple n'ont pas réussi du tout à capitaliser sur cette précarisation.
Alors,
de la
Die
société.
Alors Die Linke, c'est le parti qui s'est créé à la gauche du SPD.
Voilà, qui s'inspire plus, enfin, qui se veut proche de Syriza en Grèce ou de la France insoumise, par exemple, en France. Et ils auraient pu capitaliser là-dessus. Ils n'ont pas réussi, finalement, à faire la percée politique qu'on aurait pu attendre et à écraser vraiment le SPD. Donc, elle arrive très bien à faire ça. Et je voulais noter que c'est une spécificité, quand même, en Europe, parce que tous les dirigeants ont été balayés par la crise des subprimes et la crise, donc, de 2008-2009. C'est la seule qui survit à cette crise et où on n'a pas eu d'alternance. Donc, c'est quand même important de le noter. Et sur l'absence de vision, je suis entièrement d'accord. Là, je reprends ma casquette questions européennes. Il n'y a aucune vision sur l'Europe non plus. Il n'y a pas eu de grandes propositions allemandes pour l'Europe, comme on a pu en avoir sous Schröder ou Kohl, ni de grandes propositions franco-allemandes d'ailleurs.
Alors, pas de proposition un peu claire sur l'Europe. Est-ce que la question sur laquelle aujourd'hui, finalement, on a presque envie de s'arrêter pour fixer, disons, ce qu'est Angela Merkel, c'est-à-dire les réfugiés, ça n'est pas justement peut-être son grand œuvre et son grand œuvre à l'échelle européenne. Avant de vous poser vraiment la question à tous les trois, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une émission de télévision. Nous sommes le 15 juillet 2015. Angela Merkel, qui ne court pas les médias, hein, c'est ce que vous expliquez dans votre livre Marion van Rettergem. Là, elle y participe, elle est face public et il y a une jeune fille, qui est une jeune palestinienne, qui est menacée d'expulsion et qui explique le cas dans lequel elle se trouve à la chancelière allemande.
Ich möchte studieren, wirklich wie es wirklich ein Wunsch. Und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und ja, genau, also es ist wirklich sehr unangenehm, zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können. Und man es selber halt nicht mitgenießen kann.
Mhm. Ich verstehe das und dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch hart Politik, so wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber...
Alors, je vais pas vous demander à vous trois de me faire une traduction littérale de ce qu'il dit, mais est-ce que vous pouvez, Marion Gaillard, juste nous expliquer ce que dit cette jeune fille, en gros, et ce que commence à lui répondre Angela Merkel?
Alors la jeune fille, elle dit qu'elle, elle aimerait étudier en Allemagne, que c'est vraiment son souhait, que c'est son but, et que c'est très désagréable de voir que d'autres peuvent profiter tranquillement de la vie et de ne pas pouvoir le faire soi-même. Et Angela Merkel, elle patauge un petit peu, parce qu'elle dit « oui, je comprends, j'ai en face de moi quelqu'un qui est très sympathique, mais en même temps, la politique, c'est dur. » Enfin, voilà. Donc, on sent que ça patauge un peu. Et puis, elle a effectivement, deux mois après, une réaction complètement inverse.
Oui, parce qu'à la suite, la jeune fille va commencer à pleurer. Et Angela Merkel s'approche d'elle et elle dit, bah voilà, moi, elle vient la prendre un petit peu dans ses bras pour la réconforter.
Elle fait preuve d'empathie pour cette jeune Palestinienne qui est menacée, effectivement, de devoir quitter sur ordre administratif l'Allemagne. C'est pour ça qu'il y a un problème. Sinon, on ne comprendrait pas.
Est-ce que c'est une sorte de déclic ou de tournant, en tout cas, pour Angela Merkel par rapport à la question des réfugiés?
Je trouve que oui.
Voilà, c'est pour ça. Jérôme Vaillant d'abord et ensuite Marion Van der Rentergem.
Je pense qu'on a surinterprété cette émission à cause de ce qui a suivi. Parce que ce que je trouve frappant, c'est que Angela Merkel dit d'abord en premier, et là je ne pense pas qu'elle patauge, elle est gênée devant l'émotion, comme elle n'est pas elle-même sujet à tellement d'émotions, elle est gênée, mais elle dit très clairement qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Et ça, c'est son principe de base au départ.
Oui, mais quelques semaines après, elle dit, eh ben on peut le faire.
Elle a changé d'avis, mais ça n'est pas cet événement-là particulier qui l'a fait changer d'avis. Elle se trouve confrontée à la question des réfugiés de façon globale. Elle a fait aussi un très gros travail sur l'intégration. On ne parle pas suffisamment d'ailleurs du travail fait sur l'intégration des réfugiés, avec cette idée que si l'on veut faire venir des réfugiés, il faut aussi prévoir leur intégration. Et là, je pense qu'elle a bien, dès le départ, l'idée, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais il y a des cas où il faut le faire au nom des principes européens et des droits de l'homme.
Alors, Marion Van Rettergem, qu'est-ce qui fait que vous considérez que c'est ce moment-là, notamment, qui peut expliquer ce tournant dans l'approche qu'aurait Angela Merkel par rapport à la crise des réfugiés?
Oui, je cite cette anecdote dans le livre, parce que je trouve cette émission, cette vidéo qu'on peut regarder sur Internet, je la trouve vraiment étonnante.
On l'a mise en ligne d'ailleurs sur notre site aussi, c'est vrai que les images sont très fortes.
C'est très fort et je trouve que Angela Merkel révèle quelque chose d'elle-même, elle est totalement, elle est perturbée et troublée. Elle sait pas. Elle a un discours au début, qui est un discours de sincérité et de vérité que n'ont pas toujours nos politiques, je dois dire. Elle s'adresse à cette petite fille, c'est en disant bah, écoute, je sais qu'il y a du malheur dans le monde, que tu es malheureuse, mais je ne peux pas. La politique, c'est quelque chose qui fait qu'on ne peut pas dire à tout le monde de venir. Il y a beaucoup de gens dans ton cas, etc. Et en même temps, elle est perturbée. Cette petite fille est particulièrement adorable. Elle parle un allemand parfait. Elle dit qu'elle a très envie d'étudier, qu'elle a des rêves d'architecture. Si je me souviens bien, de devenir ou je ne sais plus, de faire des études. Enfin, elle est troublée. Et une des conclusions à laquelle je suis arrivée au terme de ma longue enquête de plusieurs années, finalement, c'est qu'il y a deux Merkel. Il y a la tacticienne et la femme de valeur qui a été structurée par sa formation. D'abord, sa formation sous le totalitarisme. Donc, elle sait ce que c'est que l'absence de liberté, contrairement aux autres grands dirigeants du G20 et aux autres grands dirigeants occidentaux. C'est vraiment la seule qui peut mesurer les deux systèmes. Et en même temps, elle a été formée par le protestantisme sous cette dictature, par un père pasteur particulièrement rigide, lui-même très ambigu avec le régime, mais elle est portée vraiment par ses valeurs protestantes, les valeurs des droits de l'homme, des libertés publiques, ces valeurs d'ailleurs judéo-chrétiennes qui fondent la démocratie, hein, elle les a en elle. Et autant ses deux premiers mandats, elle était extrêmement prudente, elle s'est comportée de manière extrêmement orthodoxe, un peu rigide, même très rigide pendant la crise grecque. Et puis, au troisième mandat, il y a quelque chose en elle qui se révèle, c'est comme si elle se lâchait et ses valeurs l'emportent sur la tactique et le calcul politicien. Et c'est vrai que cette petite fille, à mon avis, est un moment de bascule. Et quand elle ouvre, quand elle ne décide pas de fermer les frontières, parce que les frontières, encore une fois, était ouverte. On dit elle a ouvert ses portes. Elle n'a pas ouvert les portes de l'Allemagne. Elles ont toujours été.
Elle ne les a pas fermées.
Elle ne les a pas fermées. On imagine ce qu'on aurait dit d'elle si elle les avait fermées. D'ailleurs, ça aurait été, il y aurait eu un tollé général. Elle a décidé de ne pas les fermer. Et là encore, il y a toujours une litanie anti-allemande qui vise à dire oui, mais elle a calculé. Elle savait que les premiers réfugiés étaient des migrants cultivés, forcément des classes sociales plus élevées, que ça servirait à la démographie allemande. Je n'en crois pas un mot. Je pense que c'est les valeurs de son enfance qui ont parlé subitement.
Ce sont aussi des valeurs qui sont censées être les valeurs européennes. Marion Gaillard, ça compte ça quand même justement dans son bilan à Angela Merkel.
Oui. Quand j'ai dit elle n'a pas de vision, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait des choses. Mais elle n'a pas de vision, c'est-à-dire qu'elle n'a pas porté l'avenir de l'Europe dans 20 ans. Et sur les migrants, ce n'est pas une vision, c'est une réaction. Il se trouve qu'elle a eu la bonne réaction et que je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense pas du tout que c'était calculé. Je pense pas du tout que ce soit une stratégie démographique ou autre. Je pense vraiment que c'est une réaction à la fois humaine et en termes de valeurs intellectuelles et morales. Quand je disais elle patauge, c'était qu'effectivement elle est perturbée parce que elle est confrontée. Enfin, il y a un dissensus entre la raison politique, la réalité politique qu'on appellerait la réelle politique, et puis l'humain, parce qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui la touche. Et donc c'est là où je disais elle patauge au début, parce que elle est troublée et que, comme vous le disiez, elle aime pas être troublée. Donc voilà. Mais elle a incarné dans ce moment vraiment les valeurs européennes. Dans ce moment de septembre 2015, elle a incarné les valeurs européennes et elle a réussi à inverser la tendance en sa faveur, parce qu'elle avait une image justement, comme vous le disiez, très dure sur la Grèce, où elle était fustigée dans tous les pays du Sud et même d'autres pays, y compris chez nous, où l'anti-germanisme revient assez rapidement en toutes circonstances. Et là, elle a renversé la vapeur tout d'un coup en incarnant l'accueil, l'humanité que devrait incarner l'Europe. Et elle a été lâchée par la France là-dessus de manière, de mon point de vue, tout à fait scandaleuse.
Est-ce que vous êtes d'accord aussi, Jérôme Vaillant, pour dire en tout cas qu'il y a eu un avant et un après cette question des réfugiés, pour Angela Merkel, en tout cas pour la stature et l'image qu'elle peut avoir au moins en Europe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a
personnellement, je ne vois
quelqu'un
pas,
qui incarnerait le socle des valeurs européennes, oui, on penserait d'abord à elle.
Je suis d'accord avec votre conclusion, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a eu un avant et un après. Je pense qu'elle est restée quelque part fidèle à elle-même et qu'elle se révèle dans certaines situations. Et la question
on la voyait pose, pas forcément comme capable d'autant d'empathie, en tout cas.
On pose toujours la question, est-ce qu'elle agit par conviction ou est-ce qu'elle agit par opportunisme? Je ne peux jamais répondre de façon tranchée à la question.
L'un n'empêche peut-être pas l'autre, remarquez.
Voilà, exactement. L'un n'empêche pas l'autre. Je pense que c'est aussi, et le livre de Marion van Rentinghem le montre bien, c'est aussi une personne qui a justement des valeurs. Et c'est elle qui a manifestement le mieux incarné les valeurs européennes au moment de la crise migratoire. Elle a été déçue par l'absence de réaction de solidarité de ses partenaires européens. Ceci dit, elle a compris depuis que l'Allemagne n'avait pas non plus, sous sa direction, fait preuve de solidarité par rapport à l'Italie, quand l'Italie, au moment de sa propre crise migratoire, demandait de l'aide. Et je crois que ça va être intéressant de voir, lors de son prochain mandat, comment on interprète cette notion de solidarité, parce qu'on a toujours besoin de la solidarité des autres quand on a un besoin de son côté soi-même, et on ne comprend pas toujours la solidarité dont les autres ont besoin. Et par exemple, il y a un point sur lequel la chancelière n'est pas bonne, malgré la défense que j'ai prise d'elle, c'est la question des excédents commerciaux. Au nom de la solidarité européenne, elle devrait comprendre que les excédents commerciaux sont un problème pour ses partenaires européens, pour les États-Unis. C'est pas parce que Trump le dit vulgairement qu'il a tort. Je suis étonné d'ailleurs qu'on ne voit pas le problème davantage en Allemagne, puisque le premier à avoir défendu l'idée d'un équilibre commercial global, c'est Helmut Schmidt et c'est la Grande Coalition dans les années 66-67. Où on a créé la loi de stabilité et de croissance avec cette idée qu'il fallait que le solde commercial soit aussi bien équilibré que possible.
Alors peut-être qu'il faudrait la confronter, je ne sais pas moi, un petit entrepreneur français qui souffrirait justement des excédents commerciaux allemands pour susciter un peu de compassion chez elle. Je ne sais pas, voilà, c'est peut-être le côté humain qui manque dans ce cas pour lui faire prendre conscience de cette réalité. Mais pour revenir sur la stature et sur la place qu'occupe aujourd'hui Angela Merkel, donc avec ce quatrième mandat qui lui semble tout à fait atteignable désormais, Est-ce que c'est un rôle qu'elle a envie de jouer et d'assumer, Marion Van Rettergem, c'est-à-dire d'être en gros celle qui pilote, celle qui est la leader du monde, presque pas seulement de l'Europe, d'ailleurs, la leader du monde libre. Hein, je crois qu'il y avait un magazine qui avait titré...
Le New York Times, je crois. Mais, voilà. Mais la réponse est non. Et le dernier chapitre de mon livre s'appelle Le Grand Malentendu, parce que ça fait partie aussi de ces fantasmes, les fantasmes qu'ont les Français à l'égard des Allemands, qui est toujours une espèce de puissance conquérante qui veut dominer le monde. Ça, c'est le discours de Mélenchon et de Le Pen, toujours de se dire, voilà, l'Allemagne veut nous dominer. Pas du tout. L'Allemagne continue à être traumatisée par son passé. Elle a le souvenir de ce que c'est que d'être un leader mondial. Elle n'a aucunement envie de recommencer. Et autant elle tient, et vous avez raison, elle ne se comporte pas forcément de manière très solidaire vis-à-vis du reste de l'Europe concernant les excédents commerciaux. Et elle tient à maintenir sa force économique de manière évidente. Mais elle n'a aucunement, Angela Merkel n'a aucunement envie d'être un leader politique. Et elle avait très peur. Elle a beaucoup hésité à se représenter. Ce quatrième mandat, pour elle, n'était pas évident. Elle pensait s'arrêter. Elle avait très peur du mandat de trop. C'est ce qu'elle avait confié d'ailleurs à François Hollande, comme je le rapporte. Elle avait le souvenir d'Helmut Kohl, à qui le dernier mandat a été fatal. Et c'est l'élection de Trump qui, en partie, l'a largement décidée. Elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis ne sont plus un allié fiable, ne sont plus le garant inconditionnel des valeurs occidentales. Il y a Trump, il y a Poutine, il y a le Brexit, le monde est en train d'être en pleine turbulence. Donc elle s'est un peu sentie poussée, et Barack Obama est venu lui rendre une visite qui est une sorte de visite de courtoisie, une sorte d'oraison funèbre à la démocratie. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça quand il est venu lui passer le témoin un peu de... Mais elle-même a très peur de ça. Elle ne veut pas endosser les habits, et c'est pour ça qu'elle a accueilli Emmanuel Macron avec un bonheur sans nom, parce qu'elle se dit enfin, voilà quelqu'un qui, au moins, dont on sait qu'il est parfaitement européen, une sorte de social-démocrate comme elle, et qui soutient les mêmes valeurs occidentales.
Ouais, et puis qui est comme tous les chefs d'État français, en tout cas dans cette longue tradition, lui a envie d'y aller. On se souvient de la séquence de la fameuse poignée de main avec Donald Trump pour savoir qui serait le plus fort. Ça, c'est pas quelque chose qu'utilise Angela Merkel. Vous vous rappelez cette scène où, le jour de l'investiture de Donald Trump, elle, on la voit en photo inaugurer le musée de l'impressionnisme à Potsdam, une façon, voilà, à elle de montrer sa désapprobation, mais sans trop hausser le ton, Marion
Gaillard. Face à l'inculture, il faut toujours revenir à la culture. Mais oui, je crois qu'il y a cette dimension, c'est-à-dire les chocs politiques qu'a subi l'Europe ces dernières années, la crise grecque, l'arrivée au pouvoir de Syriza, qui a été un choc pour les dirigeants européens quand même. Évidemment, les difficultés aussi, on s'en souvient moins, mais pour former un gouvernement en Espagne, donc une incertitude dans un pays quand même très très important, le Brexit bien sûr, mais aussi la frayeur qu'on a eu avec les élections aux Pays-Bas l'année dernière, au printemps dernier, et en France. Donc on a eu des séquences où on s'est fait très peur, donc c'est là où on revient au titre de votre émission, c'est une valeur refuge, parce que là, on sait ce qu'on a. Et en même temps, on sait ce qu'on n'a pas aussi. C'est-à-dire qu'on a effectivement pas forcément de réflexion suffisamment poussée sur les excédents commerciaux, sur une réorientation de la politique austéritaire en Europe, etc. Donc on sait ce qu'on a, on sait pas, on sait aussi ce qu'on n'a pas. Je voulais juste revenir sur une chose par rapport à la crise migratoire. Elle a incarné les valeurs de l'Europe. Elle l'a défendue d'ailleurs dans son interview dans Libération il y a quelques jours. Et en même temps, elle continue à défendre son accord avec la Turquie, où là, franchement, de mon point de vue, les valeurs européennes sont mises à mal, parce que cet accord sur les migrants avec la Turquie, il est éminemment critiquable. Elle dit dans Libération, du coup, il y a beaucoup moins de migrants qui sont arrivés par la Grèce, certes, mais il y a eu beaucoup plus de morts en Méditerranée en 2016 qu'en 2015, parce que la voie par la Libye est beaucoup plus dangereuse, et que cet accord, il dit, on prendra plus de réfugiés de manière illégale. En revanche, on en prendra de manière légale dans la limite de 72 000. Quand on sait qu'il y a plusieurs millions de réfugiés syriens stationnés en Turquie, en Jordanie et au Liban, que l'Europe, son objectif, c'est d'en prendre 72 000, je ne suis pas sûre que là, les valeurs européennes soient complètement respectées.
Comment est-ce qu'on explique ces contradictions apparentes, en tout cas, Jérôme Vaillant ?
C'est là où on voit bien, justement, la double personnalité. Sans dire que la chancelière est bipolaire, il y a bien une double personnalité. Elle n'a jamais pensé que l'Allemagne ou l'Europe pourraient recevoir tous les réfugiés du monde. Elle a toujours distingué aussi, alors ça on oublie parfois de le faire en France, entre réfugiés et migrants, les réfugiés qui ont droit au droit d'asile, alors que les migrants économiques et autres, ça relève à ses yeux d'une autre politique. Et c'est là où on revient à l'anecdote de tout à l'heure avec cette jeune réfugiée palestinienne. Elle lui dit, ton cas personnel m'émeut, mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas accueillir tous les malheurs du monde. Et donc, elle sait très bien, au fond, que l'Allemagne ne suffira jamais à régler seul le problème, qu'on a donc besoin de l'Europe. Et c'est pour ça que d'un autre côté, elle fait tout ce qu'elle peut pour réduire le nombre des réfugiés qui se présentent à la frontière européenne. Il ne faut pas se leurrer et croire que c'est seulement la politique de bienvenue qui est mise en avant. Moi, je voudrais rappeler que la politique de bienvenue, c'est Merkel d'une part, mais c'est d'abord les Allemands eux-mêmes, les associations qui sont allées dans la rue dire welcome et se mettre à organiser véritablement l'accueil sur place, au début d'ailleurs, avec les moyens du bord et dans l'attente de moyens à venir. Ceci dit, ça n'est pas faux non plus de dire que l'Allemagne a prévu un plan de 10 milliards d'euros sur plusieurs années pour l'accueil des réfugiés. Je crois qu'on n'a pas d'exemple semblable en Europe par ailleurs.
Marion Van Rintergem, je reviens, ce sera pour terminer la discussion, puisqu'on est à 3 minutes déjà de la fin. Vous faisiez tout à l'heure une comparaison entre Angela Merkel et la reine d'Angleterre par rapport au fait que c'est plus ce qu'elle incarne que ce qu'elle fait finalement qui compte. Il y a quand même une différence assez fondamentale, me semble-t-il, c'est que la reine d'Angleterre, elle vit dans des grands palais, elle vit à Buckingham. Ah oui. Angela Merkel, elle, vous pouvez la croiser dans un magasin d'alimentation.
C'est vrai que c'est une différence de taille.
Ça vous est arrivé d'ailleurs, je crois.
Je n'ai pas croisé la reine d'Angleterre aux Galeries Lafayette sur Friedrichstrasse, c'est m'est arrivé avec Angela Merkel. Je raconte en effet que je l'ai vue 3 fois, c'est pourtant, j'ai pas vécu en Allemagne, je ne suis pas allée si souvent que ça, mais je l'ai croisée 3 fois. Une fois aux Galeries Lafayette, elle achetait des fromages au rayon, au sous-sol des Galeries Lafayette, là sur Friedrichstrasse. Une deuxième fois dans une petite brasserie.
Vous l'avez vraiment croisée par hasard?
Ah, mais j'étais, oui, absolument. Je me promenais dans les Galeries Lafayette et je suis tombée sur la chancelière avec ses petits sacs en papier à la main qui semblaient totalement inaperçue, que personne ne dérangeait. Et puis une autre fois, dans une petite brasserie où j'étais, elle est arrivée le soir. Je ne voyais même pas de garde du corps, il devait y en avoir dehors. Mais elle est entrée dans le restaurant, les têtes se sont à peine tournées. Elle était avec une de ses assistantes, une de ses conseillères de son Girls Camp, justement, une de ses fidèles, Beate Baumann, là. Et elles se sont assises dans un coin du restaurant. Et une troisième fois, je l'ai vue. Alors là, j'allais à la chancellerie, elle en sortait, elle mettait ses affaires dans le coffre elle-même. Et elle montait dans le convoi de la chancelière, contrairement à celui de notre président, c'est 2 voitures, sans vitres teintées, sans gyrophare. La chancelière met elle-même ses affaires dans le coffre, elle s'assied à l'arrière et il s'arrête au feu rouge. C'est un peu différent de ce qui nous arrive ici.
C'est clair. Le président normal, ça peut marcher parfois, Marion Gaillard. Ça marche pas toujours, pas chez nous. En tout
voilà,
cas, ça n'a pas
porté
chance.
Ailleurs, ça peut marcher. Ailleurs, ça peut marcher, notamment dans les pays du Nord. Mais la France a un gros problème, parce qu'elle a un ADN profondément monarchique. On a coupé la tête du roi, mais on reste une monarchie républicaine.
Absolument.
Et donc, il faut le faste qui va avec. Et je pense que ça devrait nous inspirer, parce que c'est urgent de changer ce modèle démocratique en France.
Je suis bien d'accord. Et Merkel ne serait pas élue ici, malheureusement.
L'Allemagne est beaucoup plus protestante. La France est un pays catholique avec la pompe catholique, pas seulement monarchique, la pompe catholique qui joue un rôle.
Ça fait beaucoup comme héritage, du coup.
Ça n'empêche quand même peut-être pas d'espérer, enfin je ne sais pas s'il faut l'espérer d'ailleurs, mais que le couple franco-allemand redémarre justement à la faveur de cette alternance qu'on vient de connaître en France, Jérôme Vaillant.
Les conditions sont remplies pour qu'il redémarre. Ce sera sans doute une négociation difficile, mais on peut faire confiance effectivement à Angela Merkel. On discute, on négocie, puis quand on arrive à un accord, nous, on s'y tient.
Juste d'un mot, Marion Gaillard, c'est une bonne nouvelle pour Angela Merkel que l'élection d'Emmanuel Macron, ça va peut-être lui permettre de lâcher un petit peu de lest sur ses responsabilités dont elle n'a pas toujours envie.
Oui, de toute façon, c'est une bonne nouvelle parce que c'était le meilleur partenaire d'un point de vue allemand. Je ne parle pas du résultat pour la France, mais d'un point de vue allemand, c'était le meilleur partenaire. Et puis, effectivement, un leadership français sur la scène européenne, ça peut lui permettre, elle, de diminuer son poids parce que, comme le disait très justement notre autre interlocutrice, notre Marion, l'Allemagne n'aime pas incarner le leadership en Europe et Angela Merkel non plus. Donc, ça est forcément une bonne nouvelle.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Marion Gaillard, Marion Van Rintergem. Je renvoie à votre livre Angela Merkel, l'OVNI politique. Je le cherchais aux éditions Les Arènes. Et merci à Jérôme Vaillant qui dirige la revue Allemagne aujourd'hui. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie, le duo Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster, Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Clément Berman. Demain, nous posons la question suivante. L'Afrique doit-elle mieux contrôler ses migrants ? Ça, c'est pour demain, Arnaud Laporte. Mais d'ici là, que va-t-il se passer?
Alors moi, je connais une Marion Laporte, si ça peut intéresser quelqu'un. C'est un auteur tout à fait remarquable. Je voulais contribuer au débat. Le linguiste et philosophe Heinz Wissmann m'avait expliqué un jour que le couple franco-allemand, c'est une expression française qui n'avait pas d'équivalent en Allemagne.
D'amitié.
Pas de couple. Voilà, pardon, je prolongeais un petit peu le grain.
Non, continuez. On peut continuer jusqu'à 20h si vous voulez.
Bon, on pourrait le faire de temps en temps. On va en parler à notre direction bien-aimée. Il va être 19h, il est même 19h passé. Dans 3 minutes, la dispute sera lyrique. Et avant cela, elle sera lyrique aussi certainement Aurélie Kiffer pour les titres de l'actualité.